le buisson ardent et l'expérience des Hébreux au désert. Et puis cette parole de Jésus qui commente l'actualité de son temps. C'est rare, c'est même unique, hein, Jésus qui commente l'actualité. Et le thème, c'est le sort des païens. On a ici deux exemples, une mort politique et un accident. La mort politique, c'est le fait que Pilate était très cruel. Hein, et il avait tout pouvoir sur la Palestine, sur la province qu'il gérait. Et il avait interdit les rassemblements. Donc, il y avait des Galiléens là, qui s'étaient rassemblés pour offrir un sacrifice. Et par là même, sans avoir demandé la permission, il a envoyé la Légion et ils les ont massacrés littéralement. Ça a vraiment impressionné les gens, c'était fait pour ça malheureusement, mais ça montre la cruauté du monde dans lequel vivait le Christ hein, au premier siècle de notre ère. L'autre exemple, toujours dramatique pour les gens du temps, hein, qui a frappé leur esprit, c'était cette tour de Siloé qui s'est écroulée à Jérusalem. Alors elle, la leçon, c'est autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'une tour s'écroule, surtout les tours de l'Antiquité, ce n'était pas nos constructions à nous. C'est le travail mal fait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'équilibre architectural de la tour, quoi. Et elle a flanché, et elle a tué 18 personnes, nous précise Jésus. Donc ça, et Jésus à chaque fois ponctue sa réflexion en disant, mais est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Pourquoi? Parce qu'il y avait dans le judaïsme cette pensée que rien n'arrive sans cause. C'est parce qu'on a péché que le malheur tombe sur nous. Et c'est pas possible autrement. Déjà, Job avait combattu ses amis en disant tout le contraire, en disant que c'est pas comme ça que fonctionne la justice divine. Jésus reprend le même thème avec les mêmes conclusions que Job pour dire que non, ils ne sont pas plus pécheurs et pourtant ils sont morts violemment sous cette forme-là. Et il précise encore, prenez garde, convertissez-vous pour ne pas subir le même sort. La leçon à tirer de cela, c'est que cette mort aléatoire, cette mort privée de sens, les Juifs essayent de lui en donner un, le péché, une culpabilité qu'il expliquerait. Et Jésus anéantit ce sens aussi. Une mort complètement passive, vécue sans aucun contrôle sur elle. Alors, pas dans la matérialité, mais dans le fait qu'elle advienne et dans la réaction qu'on peut avoir à son encontre. Et Jésus dit toujours qu'il faut se convertir pour ne pas périr ainsi. L'Apocalypse nous montre, à la fin des temps, eh bien, les gens comme ça qui meurent à cause des fléaux que Dieu envoie. Mais ces fléaux, en réalité, ils ne sont pas envoyés par Dieu. Dieu les permet. C'est la logique du monde, la logique des actes humains qui produit tous ces fléaux. Et Dieu permet que les hommes restent prisonniers de leur propre force. Qui accuserait Dieu aujourd'hui d'avoir suscité la guerre en Ukraine? Non, c'est la logique de nos actes. C'est la logique du choix des gouvernants, c'est la logique de ce qu'un peuple ou plusieurs peuples peuvent attendre, des valeurs qu'ils partagent. Tout cela converge vers un résultat, ou bien chaotique, c'est plutôt notre monde actuel, ou plutôt rationnel et très humain. C'est la mort privée de sens, la mort aléatoire, c'est pas particulière. Si, c'est la marque du péché, bien évidemment, mais pas plus que les autres. C'est ce que Jésus explique. C'est pas parce qu'ils ont été pris ou ils sont impliqués directement dans la promotion de ces valeurs mauvaises qu'il n'y a que ces gens-là qui sont coupables. Tous ceux qui ont permis que leurs valeurs soit partagé par le plus grand nombre, par les gouvernants, etc., ceux-là aussi sont coupables. Un peuple, on a les dirigeants qu'on mérite. chaque élection, dans la démocratie, on a quand même le pouvoir de dire qui on veut. On voit où penche la majorité, et vers le chaos. Et puis après, tout le monde crie. Oh là là, c'est bien beau de crier. Il vaut mieux réfléchir avant, et ça, c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est le thème du sort des païens. Si on ne se convertit pas, on est un païen. Si on n'a pas l'aide de la foi, on ne peut pas comprendre le combat spirituel qui se mène dans le monde, les forces du chaos qui sans cesse l'agitent. On ne peut pas comprendre pourquoi il y a des périodes où les ténèbres semblent avoir une force énorme et la lumière tellement peu. Et heureusement, il y a des périodes historiques où c'était l'inverse. Mais c'est là aussi, il faut regarder pourquoi. Parce que nous vivons en nous-mêmes, d'abord individuellement, c'est le sens du désert et du carême, nous vivons sur des valeurs qui sont celles de l'Évangile, centrées sur la vérité et l'amour. Et les vivants, eh bien, nous les professons, nous les mettons en pratique, nous les faisons luire dans le monde. Et les hommes, un peuple qui, comme ça, professe ce type de valeurs, eh bien, inverse l'histoire et neutralise les forces du chaos. C'est cela, avoir une maîtrise sur sa mort. Sa mort, Jésus nous montre sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il confesse la souveraineté de Dieu, quelqu'un de plus grand que lui qui lui insuffle une sagesse. C'est pour nous qu'il le fait, il était l'égal du Père, mais il le fait pour nous montrer ce que nous devons faire. Et là, notre mort a un sens. Ce n'est pas une mort aléatoire dès lors. Une mort chaotique. Le figuier, c'est l'humanité. Et le propriétaire du terrain, de la vigne, enfin du verger, c'est Dieu. Le figuier, c'est un arbre verdoyant, mais sans fruits spirituels, celui de la parabole de Jésus. Alors, bêcher et mettre du fumier autour, ça correspond à l'appel à la conversion. Et l'humanité, nous le voyons bien, encore de nos jours, elle passe son temps à vouer un culte à la vie. Ah, ça c'est vrai, on a peur de la mort et on veut goûter l'existence le plus longtemps possible. Il y a un culte à la vie, on est prêt à tuer tout le monde d'ailleurs pour offrir au Dieu de la vie l'offrande qu'il réclame. Oui, un culte énorme à la vie, mais une vie sans fécondité. Et la vie sans fécondité, c'est la mort. C'est l'humanité, on le voit, dans la sexualité, dans l'argent, dans la vie sociale. C'est partout, il n'y a pas de fécondité. La fécondité n'est pas là. La sexualité, c'est évident. Elle est ordonnée à la vie et à la fécondité. C'est propre de la sexualité. Mais on s'arrête, on la bloque, on la neutralise en quelque sorte, pour qu'elle ne soit que le plaisir de la vie et rien d'autre. L'argent, c'est pareil. L'argent, c'est fait pour passer, pour se communiquer. Et c'est comme ça que l'argent est fécond, non? Le monde moderne, les financiers modernes, thésaurisent, bloquent tout, etc. C'est le contraire de la fécondité. Dans la vie sociale, c'est pareil. On n'agit plus pour le bien commun, on agit uniquement pour soi-même. Sa réussite, ce qu'on peut prendre ou piller sur le bien commun, c'est gratos. Allez, on y va. C'est triste comme spectacle, parce que c'est pas le spectacle de la vie, c'est le spectacle de la mort. Là où il n'y a plus de fécondité, on est en face de la mort. C'est le sort des païens. Et les païens s'étonnent en mourant, « Ah, mais pourquoi moi ?» Il y a le figuier toujours, la parabole du figuier nous montre qu'il y a un jugement qui est associé au don de la vie. Et c'est comme ça qu'on peut remonter, qu'on peut se convertir. Oui, il y a un jugement. La vie, elle n'est pas neutre, moralement parlant. Et ce jugement, il est fondé sur la souveraineté divine. Donc la première chose à faire, je dirais pour un incroyant, c'est de s'interroger sur l'idée de la souveraineté de Dieu, d'un Dieu créateur. Et comment, moralement, quelles sont les forces en lui qui le dérangent, qu'est-ce qui, dans l'idée de la souveraineté d'un Dieu plus grand que lui, le dérange, notre païen? Si vraiment il faisait au moins cet examen de conscience, ben il pourrait commencer à y voir plus clair dans les choix qui président à son existence. Sa vie ne serait plus aléatoire, sa vie ne serait plus privée de sens, elle commencerait à être habitée par la lumière. Nous sommes, donc on s'avance dans le carême, aujourd'hui c'est l'Église de France a institué la journée mémorielle, alors on fait mémoire de quoi? De la pédophilie, des abus, dit-on plus pudiquement. Alors, moi je dirais, on va prier, on aura une intention de prière, à la prière universelle hein, pour les victimes, ça c'est évident. Mais en même temps, c'est la grande leçon, je crois, pour vous qui êtes parents ou qui allez le devenir, c'est de, on ne peut pas déléguer l'éducation de ses enfants d'une manière aveugle, sans contrôle. Alors contrôler, c'est pas mettre une caméra sur les vêtements de votre enfant, c'est après, au retour de l'école, au retour du catéchisme, au retour de quoi que ce soit, va demander, d'abord regarder un enfant qui a souffert, ça se voit, même s'il ne le dit pas. Et puis, simplement communiquer avec lui. Ça lui a plu, ça lui a pas plu, qu'est-ce qu'il a appris, etc. Et rien qu'en parlant comme ça, on arrive à connaître tout ce qui a pu se passer éventuellement. Au moins, il y a cet avertissement-là dans cette crise désastreuse de la pédophilie. Et on priera aussi pour que le clergé, c'est lui là qui est en cause, enfin, pour ce qui concerne l'Église, cesse de considérer ce dossier comme un problème de plus à gérer, qui s'accumule avec tous les autres, et la réduction du nombre de prêtres. Mais donc, pas une vision administrative, par pitié, mais enfin une vision spirituelle des choses. Et là, c'est l'expérience du désert, l'expérience du buisson ardent qui nous est donnée là, dans la première lecture. Préparons en ce carême, préparons dans notre vie spirituelle, tout simplement, au long de notre existence, préparons à Dieu un possible lieu de rencontre. Comment faire? Moïse a vécu une vie très longue, 120 ans, divisée en trois périodes, tout à fait symétriques de 40 ans chacune. La première, il a vécu comme un païen, c'est le païen dont parle Jésus dans l'Évangile, il menait une vie privée de sens. Dans la seconde, il a vécu parmi les païens à Madiane, mais déjà là c'est le problème de Dieu qui le travaillait, puisqu'il avait essayé d'aider ses frères. Et puis, son beau-père, c'est pas un hasard, est grand prêtre de Madian. Et le Dieu que j'ai trop adore, c'est pas le même Dieu que les Égyptiens. C'est pas un Dieu pluriel, c'est un Dieu unique, mais un Dieu unique qui tolère, enfin, on reste dans le cadre du polythéisme, il tolère que d'autres nations aient des dieux. Mais à Madian, on ne vouait un culte qu'à un seul dieu déjà. Monolâtrie, c'est le terme technique. C'est pas monothéisme, monolâtrie. Au milieu de plusieurs cultes possibles, l'exclusivité d'un seul culte. Et il a grandi, donc vous voyez, il commence à s'affiner, et c'est au bout de 40 ans, à la fin de sa vie à Madian, eh bien, qu'il y a l'épisode du buisson ardent. Dieu considère que ça y est, il a enfin compris, il est prêt, il est assez mûr pour accueillir la révélation et donc pour ensuite conduire ses frères au désert pour leur permettre de vivre la même expérience. Ça veut dire mettre Dieu et l'expérience de Dieu à la première place et tous ces problèmes d'absence de maîtrise des pulsions, etc., eh bien ça disparaîtra forcément et il n'y aura plus aucune ambiguïté sur le type de réaction à avoir vis-à-vis d'un de ces monstres vicieux qui se trouvent éventuellement dans l'Église. On le fiche dehors, point. Ça devrait être tellement évident, mais non. Longtemps, il en a été autrement. Et puis la peur du scandale, enfin, ce, ce genre de vanité auquel l'Église doit maintenant complètement renoncer. Prions Dieu pour tout cela et cheminons nous-mêmes pour faire briller la lumière de Dieu dans le monde.